Chapitre 8. Venise sentimentale. L'inconnu, dont la lune éclairait les traits repoussants, tendit son bras vers une masse de brume et de lueur. « Voilà Venise, dit-il. » Et c'est par une nuit pareille que le prince lombard jeta ses éperons d'or à l'eau en jurant de ne plus chevaucher jamais que Cornarine au nombril brillant et les vagues de la mer. « Il est vrai, dit un autre, et c'est par une pareille nuit que Jean-Jacques reçut d'une courtisane qui n'avait pas satisfaite le conseil de se vouer aux mathématiques. « Hélas, dit mon ami, c'est par une pareille nuit que l'ardente aurore du pain voulut persuader le seigneur Pagello, dont elle ne sut jamais bien comprise qu'il était son premier roman. « Et c'est lui, dis-je, par une nuit pareille, que Nan, de ses lèvres ruineuses, baisa pour la première fois son ami à travers 1000 serments dont pas un n'était vrai. Cet automne que nous fûmes à Venise, mon ami Nan et moi, nous étions partis de Bordeaux. C'est ainsi, mais par mer, qu'il faudrait toujours quitter la France, et les regrets qu'on emporte de ce beau royaume seraient moins vifs si on ne lui disait adieu qu'à travers cette cité de vin et de morue, couchée sur les bords noirs d'un pont sans navire. Car ces bâtins ne sont plus où se voyaient de riches armateurs en pantalon de nankin sur le damier des quais. Cependant, on débarque le sucre et le précieux café que les noirs du petit Goave ont enveloppé le pagne. Et une belle dame, à la taille haute, regarde languissamment sous son ombrelle à frange, en rêvant peut-être aux aides de camp de M. le duc d'Angoulême. Nous passâmes ensuite par ces villes du sud où il y a beaucoup, assure-t-on, de huguenots, Nîmes, Orthez, Montauban, Moissac. Peut-être ne sont-elles pas citées dans l'ordre, et d'ailleurs nous ne les distinguâmes point parce que c'était un train de nuit. Mais à l'aube, ce fut Arles en robe lilas, des architectures gallo-romaines, et sur le quai de la gare, une fille de chair grasse et mate qui vendait du raisin très mûr. Alors mon ami, s'étant soulevé sur sa couchette, demanda « Combien de stations y a-t-il encore ?»« 78, répondis-je, et elle retomba accablée. Les topos de Nan manquent un peu de précision. Elle n'a pas reçu, étant d'extraction obscure, cette forte éducation géographique qui nous permet de ne pas confondre l'île de Nosy Mitsiou avec le détroit ou phare de Messine. Elle a d'ailleurs peu de prétention aux sciences, contente de régenter les lettres et les arts. Elle ne croit pas non plus que l'archéologie ni l'érudition historique lui soient tout à fait étrangères. Mais peut-être s'y exagère-t-elle en sa valeur. Les douanes passèrent, nous étions en Italie, et Nan s'indigna de n'apercevoir autour d'elle aucun changement. Les plus lointains regards qu'elle avait encore jetés sur le monde, c'est jusqu'à Mustapha supérieur, et longtemps elle caressa l'illusion que les pays étrangers sont autre chose qu'une espèce de France plus mal tenue, habitée par des professeurs de langue. Peut-être espérait-elle aujourd'hui qu'elle allait voir des gens se promener nus, les pieds en l'air, avec les yeux sur le ventre, ou toute autre chose de ce goût-là. En sorte que, d'être déçue, elle devient injuste, tourne le dos au paysage éblouissant et mou, et ne veut même pas reconnaître dans l'air cette odeur d'épices qui est proprement la laine de l'Italie. Car chaque pays a la sienne. C'est ainsi que l'Angleterre sent la marmelade et les feux et les houilles éteintes, tandis que l'Espagne est toute odorante de sang, de fleurs corrompues, de sueur. Et pour l'Allemagne, bon, je n'en sais rien, sinon que la chambre de Fraulein exhalait le parfum du café au lait refroidi. Mais Nan est sensible à ces nuances. Aussi ne lui parlerai-je point des petits ports hindous où l'on respire le safran et le poisson salé, ni du Maroc, empire fleuri, aromatisé de jonquilles, non plus que de cette île créole qui répandait au loin sur la mer nocturne l'âme des cassis et des girofliers. D'ailleurs, mon ami avait été plutôt âpre à me reprendre sur mon attitude à la douane. Elle a entrepris depuis peu de refaire mon éducation, bien différente de celle qu'elle était jadis sous la lune de miel, attentive alors à me découvrir sans cesse quelques perfections nouvelles. Je l'entendais, par exemple, me dire tout à l'heure « Oh, comme vous avez le pied petit !»« Je l'ai plutôt mince, » répondais-je avec complaisance, tout près de piaffer. Et Nan répétait docilement « Oui, c'est vrai, plutôt mince. » Ou bien « Comment faites-vous pour avoir des pantalons si droits ?»« Ben, je les fais repasser, Nan. » Mais aujourd'hui, c'est extraordinaire ce que vous savez peu parler aux subalternes. Vous leur dites tout le temps « Ayez la bonté de ceci, de cela, voudriez-vous porter ces sacs, m'indiquer le télégraphe ?» Mais ils sont payés pour ça, après tout. Mais tout le monde, Nan, est payé pour ça. Croyez-vous pourtant que si j'allais dire à quelques personnalités haut placées « Ayez donc la bonté de reprendre ces traditions de raffinement, d'élégance dans la force, qui paraissent tomber en désuétude depuis M. de Morny. Oh, il ne m'enverrait pas un bain. Mais bien, Dieu sait pourtant. Oh, faites de bain. » Elle fait la moue. Pourquoi n'êtes-vous pas républicain? Bon, je trouve que mon père l'a été pour deux. La moue s'accentue. Mais voilà bien Nan. Elle est naturellement incapable de raisonner. C'est un beau réflexe qui dit quelquefois les choses par simulation. Cependant, le Milanais s'enfuit lentement de droite et de gauche, avec ses fossés pareils aux mailles d'un réseau, sa terre gonflée comme une mamelle, et de la vigne qui monte aux arbres toute rouge. Ce train n'a pas de wagon-restaurant, et nous dînons mal, dans un buffet enrichi de stucs multisimicolores, dont le Palladio se fut attristé sans doute ou diverti. Il y a aussi des mouches, il y en a partout, jusque dans la paille des fiascos. Enan se débat contre les longs serpents de pâte. Elle me rappelle la Haucon en petit, mais comme elle a taché décidément sa veste fauve, « C'est sale, dit-elle, l'Italie. » La nuit passe, changement de train dès l'aube, et à Mest, je vois sans plaisir monter auprès de nous une ancienne connaissance d'Aix. Je ne me trompe point. Ce cirage en moustache, ses yeux qui semblent nager dans l'huile comme des cèpes de conserve, ses mains adipeuses, nul doute. Lui, oh, il manifeste une joie haute. Qu'est-ce qui m'amène à Venise ? Et il coule ses yeux gras vers mon ami jusqu'à présentation. Le marquis Gondolf, Madame Anaïs Dunois. Nan est ravie. D'abord, elle n'a vu que moi depuis un tas d'heures, ce qui est tout près de m'avoir assez vu. Et puis je soupçonne cette jeune républicaine de nourrir pour la feuille d'ache une passion honteuse. Enfin, voici Venise. Sous le soleil qui monte, elle est grise et rose comme un flamand. On m'avait dit, on n'allait pas à l'hôtel, le service est inimaginable. Et puis il n'y descend que des voyageurs en vin d'Asti, d'Asti Spumante, ou bien des photographes d'art. Et on m'avait dit, surtout ne louez pas, vous vivriez entre les cancrelats et les gouttières. Et même depuis quelques années, il y revient. C'est ainsi qu'un Anglais a été trouvé mort l'autre jour, on ne sait de quoi, et son chien aussi, sous son lit. Qu'en pensez-vous, Nan ? Bon, ça m'est égal, dit-elle, pourvu que ce soit une maison neuve. Mais Gondolf se range côté hôtel. Quelle commission peut-il bien toucher, au juste ? Allez donc à Hispaniola, c'est très bien, et vous avez l'eau. Nous y allons. Le ciel s'est couvert. Il commence à pleuvoir et les appartements ferment mal. C'est vrai, nous avons l'eau, comme dit Gandalf. Ce Gandalf a tout le charme des compagnies douteuses. Avant qu'on ne le rencontrât à Aix, il avait 2 ans ou 3 vécu à Paris, quelque chose dans les consulats. Mais il semblait plus occupé de concerts que de politique. Et le reste du temps, on le pouvait voir à Washington, où du reste il se ruina. Dans la suite, le baccarat lui fut plus favorable. On ne peut pas toujours perdre, vous disent ces vieux messieurs des stations balnéaires, dont le bruit court qu'ils se sont décavés étant jeunes. C'est ennuyeux d'être des si tard qu'on ne leur sert jamais qu'à se refaire. Gandalf, qui n'est pas un vieux monsieur, m'a mené au cercle de la girafe. « Tout ce qu'il y a de mieux ici, assure-t-il. Valets à moustache, en livrée d'un rouge douteux, et qui reste assis quand on entre. Tapisserie du Second Empire, genre gobelin. Un peu moisi, mais cela leur vaut mieux. Et des crachoirs dans tous les coins, comme aux salles d'attente de la Compagnie de l'Ouest. Et une cagnotte, vraiment pas trop béante, à la table de Bac. Celui-ci d'ailleurs paraît étiolé. Et puis on n'entend pas, dans ce pays de billets, le joli son de fort, discret leitmotiv de Pallas, sous les doigts du changeur. Ces Italiens sont d'une impudence gracieuse. Ils vous marchent sur les pieds avec des révérences. Nous étions hier, Nan et moi, à la terrasse de cette pâtisserie si joliment levantine qui fait face à San Gimignano. L'église de San Gimignano a été démolie au commencement du XVIIIe siècle. Quand des bouchères du Bolio, l'inévitable Gandalf et un jeune homme très beau, bestialement, avec de trop petits pieds chaussés étroitement, cuir jaune et verni. Celui-là, dénommé Dolcini, ne parle pas, mais il regarde avec des yeux si humides que j'ai envie d'essuyer les joues ovales de mon ami où s'est posé son regard. Il nous quitta, et Gandalf, que le Zucco semblait rendre plus communicatif encore qu'à l'ordinaire. « Si vous aviez connu, dit-il, sa mère la marquise, c'était une Vénus, avec ça et des seins de pierre, monsieur. »« Oh, ça devait lui peser, remarque Nan en portant la main vers sa gorge. » Et notre ami ajoute rêveusement, « Ça a été ma première maîtresse, ça. » Ça vous rajeunit pas. La discrétion, a dit un poète arabe, est à l'amour comme au sabre son fourreau, elle le garde de souillure. On dirait depuis quelques jours que Venise commence à n'amuser plus autant mon ami. Elle m'a dit tout à l'heure, l'autre soir, en bâillant, savez-vous ce que nous devrions faire demain? Une promenade en voiture. Mais Nan, ne vous êtes-vous pas encore aperçu qu'il n'y a de chevaux à Venise qu'en cuivre? Et le seul animal de trait qu'on y connaît, c'est le Bucentaure. Encore n'a-t-il plus servi depuis qu'il alla chercher Henri de Pologne? Jean Bellin, est-ce bien Jean Bellin ou Tipole, a représenté le roi au moment qu'il débarque accompagné de Barbezière et de Villequier. Au fait, était-ce bien Villequier? J'ai connu, dit Nan, un Villequier. Oui, c'est bien ça, un officier brun, mince. Non, le mien était peintre sur porcelaine. Même, il a fait un service de 480 pièces où je suis représenté en Diane et qu'on a acheté pour l'Élysée. Ainsi, Nan, monsieur Loubet, se trouve toujours 480 fois de votre image pendant que je n'ai, moi, que 2 ou 3 photographies. Les domestiques en auront peut-être cassé. Mon chéri, lui dis-je, chagrin de son irrespect, les domestiques de l'Élysée ne cassent rien. Les patrons non plus, d'ailleurs. Cependant, sous le ciel gris de perles, Venise amortit ses verts et éclaire ses roses. Oh, un sisselet, dit Nan. Car elle me comble maintenant d'opinions jusque dans les minutes les plus sacrées. et j'ai perdu tout espoir qu'elle se taise jamais plus, comme au temps où je lui avais persuadé que le silence donnait une expression ironique à son visage. Elle me croyait alors. « Sisley ?» lui dis-je. C'est comme si elle me parlait d'un corps chimique nouveau. Je prends un air bête, mais bête, qui l'a fait écumer tout de suite. C'est la vengeance des pauvres hommes, ces jeux de physionomie. Les seuls, dit Eliboubou, où l'on ne perde point son argent. Vous n'allez pas, me dit cette gracieuse personne, me charrier longtemps, je pense. Elle s'irrite, au fond, que je ne crois plus à ses esthétiques. Depuis ce jour, j'ai voulu faire admirer sur un piédestal les plantureuses ciselures de Léopardie. Au lieu de ça, elle mettait ses mains, comme un enfant sale, dans les creux secrets du bronze, ou bien tirait la langue à deux ou trois dames allemandes qui la regardaient avec ce regard d'envie, qui est encore ce qu'on a trouvé de mieux à l'étranger comme opinion sur nos femmes. « Qu'est-ce qu'elles ont à m'acheter comme ça? Je suis sûr que j'ai quelque chose qui ne va pas regarder. » Elle sourit d'un air victorieux et tourne avec lenteur sur elle-même en haussant les seins. Sa robe est bleu pastel, ornée de boutons en émail camailleux, où sont représentés des attributs empires, la jupe volantée trois fois en forme tout en bas. Et son chapeau est fait d'un seul oiseau, dont on dirait, tant il est plat, que pendant longtemps quelqu'un de très lourd s'est assis dessus. Enfin, elle cesse de girer et me dit d'un air grave, « Mais pourquoi voulez-vous que j'admire toute cette décadence? Ça vaut pas mieux que Florence, et vous savez aussi bien que moi que Michel-Ange a tué la sculpture. Oh, » sur le moment, ça me donne un coup. Mais je me remets et lui demande avec douceur. Nan, est-ce que vous connaissez Monsieur Claude Anet? Oui, de nom. Eh bien, il a écrit une chose sublime. C'est qu'il faut battre les femmes maigres avec un bâton. Nan hausse les épaules et regarde le soir qui tombe. Elle se retourne pourtant au bout de quelques minutes et me dit d'une voix mouillée. Mon Corot a dit quelque chose de bien plus sublime à propos du crépuscule. Je prévois. Il a dit, c'est l'heure où les fleurs font leur prière. Bon, décidément, il me vaudra mieux m'entretenir avec autre chose. Moi aussi, je tourne le dos et contemple le paysage. Une buée lente, peu à peu, enveloppe Venise, qui semble descendre et s'ensevelir dans les eaux. Et enfin, nous voilà de retour, paisibles, encore que les conditions de notre départ n'aient pas laissé d'envelopper ce que ma compagne appellerait en son ramage un peu de chichi. De quelques jours, nous n'avions été quittes des deux marquis. Devant les Tintorets, à Saint-Marc, caverne d'ombre et d'or, où des pirates enchâssèrent dans la mosaïque tout un butin de marbre, sur le lido lépreux, oh, ils étaient là, à droite et à gauche, le plus vieux qui tâchait à démarquer Casanova pour s'en composer des aventures, et l'autre, Dolcini, couvant nave de l'humide silence de ses yeux. En vérité, il eût été assis sur un gros œuf que je ne lui aurais pas trouvé l'air plus bête, mais Nan le considérait avec bienveillance. L'autre soir, prise de migraine, elle monta se coucher au sortir de table et me laissa seule au salon. Gondolf, entré presque aussitôt, me mit en soupçon par tant de hâte qu'il y eut complot, peut-être pour m'endolciner. De l'empêcher ou de le surprendre, je choisis le second, pensant que ce me serait une vengeance à la fois amère et douce de planter là cette perfide en proie à son italien. Plus je réfléchissais, plus mes doutes prenaient figure de certitude. Nan devait avoir accepté rendez-vous au dehors, et pourvu que je ne fusse pas absent moi-même beaucoup plus d'une heure, j'étais sûr de la pouvoir cueillir à son retour, et avec quelques « je sais tout » extorquer un aveu de sa première surprise. Je me laissai donc conduire à la girafe, où nous devions trouver, me dit Gondalf, un baccarat épouvantable. Mais ce n'était qu'un chemin de fer très omnibus, qui évoluait avec parcimonie autour d'une mise de 5 lires. Un écarté avec mon compagnon me séduisit davantage. Dieu puissant ! Il gagna 11 parties de suite, puis 3 encore, puis 7, 21 parties sur 24. Qui a jamais vu cela dans notre France ? Oh ! Me disais-je, décavé, ce Dolcini n'a même pas l'esprit de dessous le linge. Gondalf alors me proposa de jouer sur parole, et je refusai. Mais, lui dis-je, ma pelisse, voulez-vous contre 100 louis ? Il gagna encore. Oh, vous me la prêteriez bien pour rentrer chez moi. Vous ne jouez plus ? Que voulez-vous que je joue ? Ma veste ? Bon, jouez votre dame. Oh, il était sérieux à gifler, mais il me sembla plus drôle d'accepter cette proposition romantique. Il fit carte, tourna la dame de cœur. J'avais les 3 autres, par 2 valets, jeu de règle, et en effet, je marquai 1 point. La veine avait tourné, enfin. Que faisiez-vous, Nan, cependant ? Et je regagnais ma pelisse, du renard tout frais venu de Sibérie, mon argent, celui de Gondalf, qui se trouve un peu de choses au comptant, et une somme assez grosse sur parole. Je lui offris pour celle-ci tout le temps qu'il voudrait, à quoi mon homme répondit fièrement qu'il s'acquitterait dans les 24 heures. Voilà, mais lesquelles ? Entre-temps, comme fait l'eau d'une salade qu'on secoue à force, Nan m'était sorti de la tête. Il est vrai aussi qu'on n'éprouve pas 2 passions à la fois, et que le jeu l'emporte sur n'importe quelle curiosité sentimentale. Cette fois même, il l'avait tué, et lorsque ma maîtresse me revint à l'esprit, ce ne fut plus parmi de ces images grossièrement désobligeantes dont l'éthique nous a laissé l'analyse ou la confession. On y dit plutôt des cartes transparentes après du hashish, quand tout devient autour de nous à la fois comique et chatoyant. Je songeais aussi à des gravures de la Restauration où des gens d'une surprenante impassibilité, corrects de tout le haut du corps, comme des notaires, quelques-uns avec un léger collier de barbe, se livrent sans abandon à une gymnastique intérieure. On en pouvait illustrer quelques casuistes espagnols, si tout cela ne s'intitulait pas avec fraîcheur « la bonne mère à la couturière » à l'enfant, etc. Ma gondole, cependant, me ramenait à Hispaniola, selon ces courbes précises et molles qui en font la plus voluptueuse des voitures, et chaudement, dans ma pelisse reconquise, je regrettais que l'hiver fît taire ces cœurs nocturnes dont la romance semble glisser et rebondir sur les eaux. Je songeais qu'au cours d'une nuit délicieuse parmi les nuits de cet automne étrange de Venise, où nulle feuille ne tournoie, alors que l'âme, suspendue entre l'espace et la durée, est comme un éther qui jouirait de s'accroître élastiquement, et que la musique n'a plus, pour ainsi dire, de contour extérieur, ma compagne, dont le beau visage ironique, pâle et busqué, évoquait Jessica, m'avait dit avec émotion « Vous vous souvenez, ils ont joué ce même air chez Payard ?»« Non, je ne me souviens pas. »« Oh, vous autres hommes, soupira-t-elle, vous n'avez pas de sensibilité. » »« Que fait-elle maintenant, Nan ? S'il n'y avait rien de vrai dans mes soupçons, et qu'elle soit à se coucher toute seule, bien sage, lasse de m'attendre ?» Sa belle liquette chauffe auprès du feu, mais la batiste restera froide par place. Et cela, tout à l'heure, la fera frissonner, comme un étang où soudain l'on s'écrie à rencontrer sous l'eau dormante une eau plus froide et qui coule. C'était à peu près comme j'avais prévu. Sauf que Nan avait choisi de faire chauffer sa chemise sur elle-même. Accroupie auprès du feu, elle transparaît à travers le lin et il semble que la flamme l'ait dorée, ou plutôt sa chair a la nuance d'un quartier de mandarine. Maintenant, elle me guette du coin de l'œil et pose. Moins orgueilleuse de la décisive géométrie de son corps que de sa chair voluptueuse, qui vous met l'âme au bout des doigts de sa hanche qui se tend ou de ses secrètes ombres, dont elle voit que ma figure, malgré tout, s'émeut. Et elle a un sourire parfaitement obscène. « Vous avez l'air, lui dis-je, de ces suspensions que les ménagères voilent de tuiles aux approches de l'été par crainte des mouches. » Mais Nan, dédaigneuse des épigrammes, quitte la cheminée, se couche. Occupation où beaucoup de gens s'accordent avec moi à la juger irrésistible. Un peu de temps se passe, et ce n'est que plus tard que Dolcini retombe dans la conversation. « Non, c'est lui qui est venu me voir, avoue Nan, avec une candeur presque excessive. Et alors ? Mais non, je vous assure. Et d'ailleurs, ils sont tous aussi mollassons que lui à Venise. Alors quand j'ai vu ça, « Ouste !» je lui ai dit, « mon enfant, on vous a assez eu. » Le malheur, c'est que ça ne lui entrait pas et qu'il a fallu lui expliquer avec douceur, quoiqu'il commençât à courir, qu'on n'avait pas fait venir pour entretenir le feu, et si son père l'avait fait faire dans les prisons, comme les noix de coco. Du coup, il a mis son chapeau sur sa tête, et il est parti, avec son parapluie même. Vous comprenez, Nan, que si on ne peut plus sortir, ça risquait d'être dépouillé de tout ce qu'on aime, etc., etc. Là-dessus, on orbite un peu. Mais sur les 10 heures... Nan, criai-je en la secouant. Je viens de recevoir une dépêche. Nous partons pour Paris, à moins que vous ne restiez à conquérir les Vénitiens. Oh non, répondit Nan en bâillant. Leur bouche. Chapitre 9. L'indifférent. Le jaloux a imaginé sa maîtresse qui fait l'amour, se chagrine non seulement que ses propres désirs en soient empêchés, mais encore qu'il lui faille joindre l'image de celle qu'il aime au membre nu d'un autre à ses hontes et à la détester avec lui. Certes, il faudrait être aussi dénué d'idées générales que feu Alexandre Bain, pour ne pas savoir que nous aimons à retenir ce qui est à nous, mais à partager le bien des autres. Aussi l'espoir une preuve qu'on soit amoureux, tant de soins apportés à se croire le seul amant de la femme même qu'on aida naguère à tromper le sien. Non que je prétende n'avoir jamais éprouvé pour Nan que les sentiments du cambrioleur, tour à tour, et du propriétaire. Il y eut même un temps où les grâces de cette belle personne m'attachèrent plus qu'il était raisonnable, si bien qu'après l'avoir prise sans elle, pour obéir en quelque sorte à la tyrannie de l'occasion, je m'aperçus que les mouvements harmonieux de son corps devenaient une part nécessaire de mon bonheur. Mais le temps amortit toutes choses, et déjà à Venise, j'avais ressenti que Nan commençait à m'intéresser plus que ma curiosité. Aujourd'hui surtout, distrait par le Paris frivole de l'hiver, par le Paris nocturne, tour à tour bleuâtre et froid, ou enseveli sous ses brouillards dorés de gaz, j'éprouvais avec joie, et pour ainsi dire à plein poumon, combien cela m'était égal qu'elle palpitât en d'autres lits que le mien, frémissante des flancs et des lèvres, les yeux mi-clos. Trop heureux si elle avait partagé cette indifférence. Mais, au risque d'être fat, il me fallait bien croire à quelque amour de sa part, rien qu'à subir sa curiosité jalouse comme aussi l'ardeur de ses embrassements. En ceci, du moins, sa folie ne laissait pas d'être contagieuse, car Nan caressa toujours à la perfection. Je fus donc surpris, le peintre Lycoris nous ayant priés à son bal diabolique, qu'elle accepta de bonne grâce de s'y rendre sans moi, qui ne l'y aurait pu conduire, ayant engagé ma soirée jusqu'à 2 heures de la nuit. Au fond, j'étais ravi qu'elle le prît comme cela. « J'irai, me dit-elle, avec Luce de Rosmarin et d'Elche qui doit l'y mener. »«
D'Elche ?
Ben vous savez bien, l'ami de ma sœur. »« Mais elle est mariée. »« Eh bien, et avant ?»« Mais il me semblait que vous l'aviez rencontrée chez moi. » D'Elche. Cela me rappelle d'abord la bizarre Salambo du Louvre, aux lèvres carminées, et puis une histoire assez confuse que m'a conté Jacques de son séjour en Alger, où ce monsieur jouait un rôle, mais rien d'héroïque autant qu'il m'en souvienne. Toute jalousie à part, la combinaison ne me paraît convenable qu'à moitié. « Voulez-vous attendre jusqu'à 1 heure ? Je me sauverai de façon à pouvoir vous prendre vers cette heure-là. »« Oh, c'est beaucoup trop tard. On arrive de bonne heure chez Lycoris. »«
Quand vous voudrez, alors. »
La scène est au palais de glace. Nan me quitte pour patiner. Je la suis de l'œil, qui glisse et tourne, pleine d'une languissante aisance. Si elle se flanquait par terre, au moins... Qu'elle fut ridicule et cria. Mais le ciel reste sourd d'ordinaire à mes voeux les plus légitimes. Quelqu'un vient s'accouder à côté de moi. C'est Yéhit, jolie fille, qui est en train de passer à la mode, non sans y recruter vraiment un peu trop d'électeurs. Métis, il n'y a pas un an encore, il faut le dire, qu'elle faisait de la figuration dans les tavernes du quartier latin, et il lui en reste quelque chose. « Ah ah !» me dit-elle, « nous y étons, madame ?» Beaucoup de gens ont cette opinion déraisonnable que je suis jaloux de Nan. Si vous saviez ce que cela commence à me laisser froid, elle m'en fera jamais autant que je lui en voudrais rendre avec vous. « Chiche ! Mais êtes-vous veuve ? Oh, vous parlez, Charlie ! Mon sénateur est à la chasse, et de ce temps-là, je travaille aux pièces. » Venez jusqu'au bar, je vous raconterai une histoire. Qu'est-ce que vous buvez? Un marathon cocktail. On nous sert. Est-ce que vous allez au bal de Lycoris? Qu'est-ce qui va, Lycoris? Peinture. C'est à Montmartre, vous voulez-vous venir? Nous avons tout le temps jusqu'à demain soir pour votre travestie. Mais en quoi me mettrais-je? Eh ben, un diable quelconque, un maillot rose. Couleur de la bête et un domino noir fermé avec beaucoup de trous. Et une paire de cornes d'argent à travers le capuchon. Oui, une belle queue d'écureuil, ça va-t-il? Oui, ça va, mais Nan. Eh bien, nous l'intriguerons. Yéhit est séduite. Elle achève... son Manhattan, et nous prenons rendez-vous pour le costumier. Le lendemain, vers 1 heure après minuit, nous faisions notre entrée chez Lycoris. Le bal battait, comme on dit, son plein. Dans le vaste atelier, tendu de cuir chatoyant, tout un enfer de chair et de taffetas bruissait, tournait, caquetait, pressé d'habits noirs. Des tziganes, inévitables comme la mort, grinçait sur la galerie, non loin du vestiaire lavabo. Et l'on y pouvait monter par une échelle, si l'on n'est pas mieux prendre l'escalier. Tout de suite, j'aperçus Nan, debout, une coupe à la main, qui causait avec 2 hommes. Elle me vit aussi, me fit un signe de tête, et sans paraître remarquer à côté de moi Yéhit, qui était pourtant charmante, assez pour éveiller en elle quelque inquiétude, reprit sa conversation. Il me faut avouer que ce parti pris d'indifférence ne m'agréa point. J'ai déjà dit que je n'étais plus amoureux de Nan, mais enfin, de la trouver familière ainsi, rieuse, abandonnée presque envers des gens qui n'étaient même pas de mes amis, était à mon sens une espèce d'inconvenance. À ce moment, son voisin de gauche, un peintre norvégien que je connaissais un peu, enveloppa son bras nu d'une main épaisse, dont je me rappelais qu'elle était couverte de poils roux, et il me sembla soudain que cette chair ambrée, dont je pouvais me rappeler le goût rien qu'en fermant les yeux, en était comme souillée. Elle, cependant, appuyait ses doigts délicats sur l'épaule de l'autre homme. Ses yeux mordorés qu'elle avait détournés de moi étaient sans doute fixés sur lui. Il me parut ridicule, de petite taille, avec une tête à la boulanger, trop grosse, branlante, dont tout son corps paraissait comme accablé. Je me demandais ce qu'il pouvait bien être officiellement. Pour ce soir, gigolo, sans doute, ou même pire, fait à souhait pour respirer en eau trouble et rapporter à la maison les fleurs des vieux messieurs. Et d'une gracilité qui semblait déjà près de s'épaissir, pareil à un cochon de lait bien en chair, il faisait, sous son frac très ajusté, les mines d'un ancien joli enfant. Je m'oubliais un peu à ces minutes observations, où j'avais plaisir à constater qu'il n'entrait ni partialité ni amertume, lorsque ma compagne à la queue d'écureuil, lasse peut-être de rester là debout sans rien dire, me rappela à la courtoisie en me tirant par la manche. Je la menai aussitôt au buffet, où elle se fondit dans la cohue et la conversation comme du beurre aux doigts d'une cuisinière. Tandis que j'essaie de renouer mes inductions psychologiques, quelqu'un me frappe sur l'épaule. C'est mon peintre scandinave, et comme il ne m'avait jamais vu avec Nan, je le fais causer, sans effort, le ciel l'ayant créé d'un naturel bavard et poétique. « Ah, cette poupée, toute vernie de poison et de littérature! Voilà des jours que je la regarde, figurez-vous, sa mécanique est détraquée, alors elle va à droite, à gauche, elle fait du mal et de temps en temps, elle perd un peu de son. Bon, vous êtes sévère. Mais je lui trouve quelque chose, une saveur de différence. Et ces gestes bizarres, il semble qu'ils n'ont plus pour nous de signification exacte, comme si c'était les signes d'une langue lointaine, oubliée déjà au jour d'Adam. Oui, elle est mystérieuse comme la sottise, mais elle a des prunelles magnifiques, des prunelles à reflets d'or, pleines de fourberies. Chez nous, les filles ont les yeux couleur de leur âme, clairs et pâles, etc., etc., etc. Il continue un moment à m'entretenir de regards norvégiens. Et le jeune homme, dis-je à grosse tête, qui est avec elle? Oh ça, c'est un vicomte d'Elche, son vice, je pense, car elle a l'air d'en tenir. Il l'avait quittée tout à l'heure, un moment de trop, et alors elle l'a mordue à la main d'une femme vraiment gracieuse. On aurait dit un enfant qui retrouve son sucre d'orge. Oh, ce Norse m'ennuie avec ses métaphores. C'est dommage qu'il ne m'ait pas consulté pour son déguisement. J'aurais dit de s'habiller en souliers. Mais que m'apporte après tout ce vicomte de Camelot? Qui lui rende ses morsures à la poupée, je la lui laisse toute, avec sa peau fine, où du sang viendrait si vite sous les dents, du sang, du son. Et puis, tout ça n'est peut-être pas vrai. Quelle apparence que Nan ait pu me dissimuler une tendresse de ce genre, depuis tant de jours que je la connais. Oui, il y a bien cette histoire d'Alger que m'avait raconté Discan. Mais Discan était l'être le plus ridiculement jaloux qui se pût voir, avec ça d'une imagination grossissante, une vraie lentille. D'autre part, le Delche a tout l'air d'être ce que Yeït appellerait un purotin. Tranchons le mot, il marque mal. Et on ne peut refuser à Nan, le sens hiérarchique, incapable qu'elle est de tromper un gentleman avec autre chose qu'un gentleman. Yeïté interrompt encore ce soliloque intérieur. « Vous parlez de crampons ? » fait-elle avec son joli rire inexpressif. « Ne vous croyez donc pas obligé de me renier comme ça tout le temps ?»« Oh, excusez-moi, lui dis-je, Au fond, je suis bien sûr que vous ne manquez pas d'entourage. Ben encore, si restez autour. Mais sérieusement, j'ai tout ce qu'il faut de bête pour qu'on me couche. Alors, si ça vous chante de rentrer seul ou avec Nan, vous ne gênez pas. Justement, je viens de l'avoir monté avec ce nabo à barbe jaune qui vous remplace ce soir. Ah, ils sont sur la galerie. Moi, je crois qu'ils choisissent la tzigane, à moins qu'ils soient dans le petit lavabo. Au revoir, alors, mon vieux. Et elle disparaît, incrustée entre deux habits noirs. Le bal est maintenant un peu plus calme. Des gens sont partis. Des couples causent de tout près dans les coins. Et les tziganes jouent en sourdine une chose langoureuse qui m'entre sous les ongles. Cela me rappelle une heure d'été passée à Armenonville. Il avait plu toute la journée sur la terre chaude, les branches s'égouttaient avec lenteur, mille feuillages semblaient nous défendre du monde haïssable qui s'agite. On apercevait seulement, en haut d'une haie, le fouet des voitures allant et venant, et un grand diable de magyar qui était avec nous, ayant conté aux musiciens des choses dans leur langue, ils jouèrent cette valse qu'ils jouaient ce soir, voluptueuse. Je cherchais Nan, je ne l'aperçus nulle part, et je m'imaginais seulement saisir sur un visage quelconque le sourire dont on enveloppe les amants malheureux. « Oh, elle est dans le petit lavabo, pensais-je, dans le petit lavabo. » Je montais. Je poussais la porte. Il eut un petit cri « N'entrez pas !» d'une voix bien connue. Et j'aperçus sur le sofa banal Nan et le Delche qui se dégageaient maladroitement. « Oh, oh, pardon, je me suis trompé de vitre, dis-je. » Je redescendis du plus grand calme. Mais non pas tel, sans doute, qu'il m'entonta à la tête quelque méchante humeur. Car aussitôt rentré, je pris le lit avec un joli mal de gorge, orné de fièvre, qui ne dura guère que 3 jours. « On dirait un coup de sang, » me dit le docteur. « Est-ce que vous auriez eu quelque contrariété ?»